Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Dans cette conférence de carême, dans le centenaire de Notre-Dame de Fatima, il était important de faire quelque chose de sérieux. Et donc, c'est la raison de ce travail qui vous a été donné, pour que vous puissiez méditer l'action de l'Église par rapport à des révélations et les documents de l'Église en ces matières, tout en respectant, comme le dit notre Seigneur, ce que l'Esprit Saint peut inspirer. Les apparitions nous rappellent à la fois la transcendance et la familiarité de Dieu et son irremplaçable présence, nous dit un auteur, d'Abraham au prophète, à la Vierge Marie, de saint François d'Assise ou à sainte Thérèse de Lisieux, qui a vu la Vierge Marie, la statue de la Vierge Marie lui sourire. À tout et à tout voyant, cela rappelle que Dieu veut être présent et parle aux hommes. La Vierge Marie, dans le mystère de la Nativité, est penchée sur la crèche. La Vierge de Cana qui demande au Christ du vin et la Vierge debout au pied de la croix, ce ne sont pas des apparitions, mais c'est le rôle même de la Vierge Marie dans l'Évangile. Et ces apparitions sont la continuité de cette présence. Alors l'Église a produit de nombreux documents pour veiller au caractère surnaturel de révélations qui suivent la Sainte Écriture et qui l'explicitent, mais qui ne peuvent pas en modifier le contenu. C'est la raison pour laquelle je veux vous lire, dans un premier temps, avant de parler des apparitions de la Vierge Marie, les critères de discernement les plus récents de l'Église catholique. Ceux-ci sont du 27 février 1978 et ont été complétés ensuite par le 14 décembre 2011. Aujourd'hui, davantage qu'autrefois, la nouvelle de ces apparitions se répand plus rapidement parmi les fidèles grâce aux médias. Par ailleurs, la facilité des déplacements favorise des pèlerinages plus fréquents dans ces lieux d'apparition. Aussi, l'autorité ecclésiastique est-elle amenée à reconsidérer ce sujet d'une manière plus précise. D'autre part, à cause des instruments de connaissance actuels, des apports de la science et de l'exigence d'une critique rigoureuse, il est plus difficile, sinon impossible, de parvenir avec autant de rapidité qu'autrefois au jugement qui concluait jadis les enquêtes en la matière. Pour vous donner un exemple, lorsqu'une statue pleure, eh bien nous allons pouvoir la radiographier, la passer dans une machine pour voir si elle est creuse et s'il y a une fausseté dans ses larmes ou dans ce sang. L'Église, lorsqu'elle constate que l'origine d'une apparition est surnaturelle, utilise ce terme latin, constat de super naturalitate ou non constat de super naturalitate, un caractère surnaturel ou non, on le constate. Et par là, il est plus délicat pour l'évêque du lieu, qu'on appelle l'ordinaire, d'autoriser ou d'interdire un culte public ou toute autre forme de dévotion de fidèles. Car dans certains endroits d'apparition, on peut venir en avion, en car, quelle que soit l'opinion ou le jugement de l'évêque du lieu. Pour ces raisons, afin que la dévotion suscitée chez les fidèles par des faits de ce genre puisse se manifester comme un service en pleine communion avec l'Église et porter du fruit, et pour que l'Église soit à même de discerner ultérieurement la véritable nature des faits, ici, ce sont des pères du synode, des évêques du monde entier qui s'étaient réunis ont estimé qu'il faut promouvoir la pratique suivante en la matière, afin que l'autorité ecclésiastique soit en mesure d'acquérir davantage de certitude sur telle ou telle apparition ou révélation. En premier lieu, on jugera du fait selon les critères positifs et négatifs. Je vais l'expliciter. Ensuite, si cet examen s'est révélé favorable, permettre certaines manifestations publiques de culte et de dévotion. L'évêque du lieu va permettre un pèlerinage, par exemple, ou qu'une messe soit célébrée à l'endroit même des apparitions par un prêtre, tout en poursuivant sur les faits une investigation d'une extrême prudence. D'où la formule « Pour l'instant, rien ne s'y oppose ». Et si on découvre des faits étranges ou mauvais, on pourra revenir sur cette décision. Enfin, un certain temps s'étant écoulé, et à la lumière de l'expérience, à partir de l'étude particulière des fruits spirituels engendrés par la nouvelle dévotion, porter un jugement sur l'authenticité du caractère surnaturel, si le cas le requiert. Est-ce qu'il y a des conversions? Est-ce que les voyants ont une vie saine? Et nous allons le voir. Les critères de jugement, de l'ordre de la probabilité au moins, du caractère des apparitions et révélations présumées. Les critères positifs, c'est une certitude morale, ou du moins une grande probabilité quant à l'existence des faits, acquise au terme d'une sérieuse enquête. S'il y a un seul témoin qui dit « j'ai vu la Vierge », eh bien, il y a une difficulté pour le croire. S'il y a deux personnes, s'il y a trois personnes, s'il y a 50 personnes, alors ça sera plus facile. Tout ça, c'est de la simple évidence. Mais c'est les faits. Est-ce que ça s'est passé ou est-ce que ça ne s'est pas passé? Ensuite, les circonstances particulières relatives à l'existence et à la nature du fait, c'est-à-dire les qualités personnelles du voyant ou de la voyante. L'équilibre psychique, si c'est une personne qui est habituellement dépressive, malade, souffrante, ou une personne en pleine santé. L'honnêteté, si c'est une personne qui a l'habitude de mentir, de voler. La rectitude de la vie morale, la sincérité et la docilité habituelle envers l'autorité ecclésiastique, si c'est quelqu'un qui désobéit à son curé, à son évêque, systématiquement. L'aptitude à mener le régime normal d'une vie de foi, quelqu'un qui ne se rend pas à la messe, par exemple, qui ne sanctifie pas le dimanche. En ce qui concerne les révélations, leur conformité à la doctrine théologique et leur véracité spirituelle et leur exemption de toute erreur. Si la Vierge Marie apparaît en disant « finalement, mon fils, c'était un homme extraordinaire, mais il n'était pas Dieu », eh bien, ce n'est pas la Vierge Marie, tout simplement. Les critères négatifs. Encore un critère positif, c'est une saine dévotion et les fruits spirituels en constant progrès. L'esprit d'oraison, des conversions, des témoignages de charité. Tout cela a l'air évident, mais il faut le dire. Ensuite, les critères négatifs. Une erreur manifeste quant au fait. Ah, nous étions trois à la voir. L'autre dit non, nous étions cinq. Des erreurs doctrinales que l'on attribuerait à Dieu lui-même, ou à la Bienheureuse Vierge Marie, ou à l'Esprit Saint. Une évidente recherche d'intérêt en relation avec les faits. Par exemple, Sainte Bernadette qui achète un hôtel à Lourdes et qui loue les chambres. Des actes gravement immoraux commis par le sujet, sinon par ses intimes, durant ses faits ou à l'occasion de ses faits. Des troubles psychiques ou des tendances psychopathiques chez le sujet qui exerceraient une influence certaine sur le fait prétendument surnaturel. Ou bien la psychose, ou l'hystérie collective, ou d'autres facteurs du même genre. Il importe de considérer ces critères, qu'ils soient positifs ou négatifs, comme des normes indicatives et non comme des arguments définitifs, car parfois, Eh bien, quelqu'un qui est pécheur peut très bien avoir une vraie apparition pour se convertir. L'intervention de l'autorité. À l'occasion d'un fait présumé surnaturel, un culte ou une forme quelconque de dévotion naît de façon quasi spontanée chez les fidèles. On vient prier. À Lourdes, à Fatima, les personnes sont venues toutes seules, à 50, à 70, dès les premiers jours. Alors l'autorité ecclésiastique compétente a le grave devoir de s'informer sans tarder et de procéder à une enquête diligente. À la demande légitime des fidèles, dès lors qu'ils sont en communion avec leur pasteur, l'autorité ecclésiastique compétente peut intervenir pour autoriser et promouvoir diverses formes de culte et de dévotion, comme prier le chapelet. Et si les critères énoncés ci-dessus ayant été appliqués, rien ne s'y oppose. Que l'on veille néanmoins à ce que les fidèles ne tiennent pas cette façon d'agir comme une approbation par l'Église du caractère surnaturel du fait. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, si dans un premier temps les gens, les personnes, les fidèles viennent prier le chapelet, ce n'est pas mauvais en soi, on peut le. Si les faits ne sont pas scandaleux, on va le permettre. Mais ça ne dit rien du jugement futur. En raison de son devoir doctrinal et pastoral, l'Église peut intervenir immédiatement. Et elle doit le faire dans des circonstances graves, par exemple lorsqu'il s'agit de corriger ou de prévenir des abus dans l'exercice du culte. Une personne, un homme, par exemple, pour l'exemple ne soit pas trop caricatural, qui s'habille en prêtre et qui va célébrer la messe parce qu'il dit que l'Esprit Saint l'a ordonné prêtre. Voilà. Dans les cas douteux, qui le moins du monde porterait atteinte au bien de l'Église ? L'autorité ecclésiastique compétente s'abstiendra de tout jugement et de toute action directe. Donc, dans le cas des apparitions de Mézogorgé, l'Église, pour l'instant, a laissé les deux évêques successifs douter des faits et ne se prononce pas de manière universelle. D'abord parce que les apparitions ne sont pas finies, et donc, il y a toujours une attente de la fin des apparitions pour un jugement en règle générale. Quelles sont les autorités habilitées à intervenir à part l'évêque du lieu, l'autorité ecclésiastique locale ? Eh bien, c'est la conférence épiscopale, régionale ou nationale, et ce peut être si l'ordinaire du lieu, l'évêque, n'a pas pu ou voulu se prononcer. Si ça concerne un pays tout entier, le siège apostolique, Rome, le Vatican, peut aussi intervenir soit à la demande de l'ordinaire du lieu, de l'évêque, soit à la demande d'un groupe de fidèles. Vous comprenez bien, le Saint-Père, successeur de Pierre, laisse les évêques avec leur mission d'apôtre. Mais si leur mission d'apôtre est un peu défaillante ou n'est pas assez rapide, lui, parce qu'il a le droit immédiat comme successeur de Pierre dans tous les évêques du monde, dans tous les évêchés du monde, il peut intervenir. Premier temps, l'évêque du lieu, et deuxième temps, Rome. Mais normalement, c'est l'évêque du lieu. L'intervention de la Sacrée Congrégation pour la doctrine de la foi, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est le fait que le pape délègue son autorité comme successeur de Pierre, à un cardinal et à des théologiens, et ensuite il relie leur travail pour approuver leur travail. Mais qui le fait ? La Congrégation pour la doctrine de la foi. L'intervention de cette congrégation peut être requise soit par l'évêque du lieu qui consulte Rome, soit par un groupe de fidèles. Dans ce deuxième cas, on veillera à ce que le recours à Rome soit motivé pour des raisons sérieuses et qui ne soit pas dirigé contre l'évêque du lieu. Il y a aussi la possibilité de la conférence épiscopale, mais je passe. Voilà ce qu'écrivait le 14 décembre 2011 la Congrégation pour la doctrine de la foi. Elle traite des matières qui regardent la promotion et la protection de la doctrine de la foi et de la morale. Elle est par ailleurs compétente pour l'examen d'autres problèmes connexes à la discipline de la foi, comme les cas de pseudo-mysticisme, d'apparitions prétendues, de visions et de messages attribués à une origine surnaturelle. L'Église exprime qu'elle est consciente de se trouver avec Jésus-Christ face à la parole définitive de Dieu. Il est le premier et le dernier, dit l'Apocalypse. Alors, pourquoi il y aurait des révélations supplémentaires, sauf à être uniquement une répétition de ce que Jésus a déjà révélé? Il a donné à la création et à l'histoire son sens définitif. C'est pourquoi nous sommes appelés à vivre le temps, à habiter la création de Dieu selon le rythme eschatologique de la parole, c'est-à-dire dans le temps et jusqu'à la fin des temps. L'économie chrétienne, le temps chrétien, du fait qu'elle est l'alliance nouvelle et définitive, ne passera jamais. Il n'y aura pas un autre prophète, un autre Messie, c'est Jésus qui est le Sauveur. Et aucune nouvelle révélation publique ne doit plus être attendue avant la glorieuse manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi donc, on met bien en garde à tout ce qui pourrait atteindre à cette révélation définitive du Christ. Une révélation privée peut être une aide pour la foi, mais elle ne doit pas prétendre compléter l'Évangile. C'est comme un encouragement. Vous voyez, la Vierge Marie nous dit « Priez le Notre Père ». Eh bien, le Christ l'a dit aussi. Elle ne fait que nous conforter, nous encourager. Auteur d'un traité sur le discernement des esprits au XIVe siècle, Gerson donne 5 signes pour reconnaître les véritables révélations privées. D'abord, l'humilité du voyant. Il doit être obéissant, il ne doit pas être violent, prétentieux, agressif. La discrétion, il ne doit pas chercher les journalistes et les faire venir. La patience, il doit supporter d'être contredit, voire même humilié par des prêtres ou par des évêques qui ne l'écoutent pas, ne le respectent pas. Eh bien, il porte cette offense dans un esprit évangélique. Il n'est pas, voyez-vous, ça vous semble un peu étrange ce que je vous dis, mais c'est particulièrement important. La vérité des révélations, bien sûr, et la charité ou l'amour de Dieu. C'est une prudence semblable qui préside aux décisions de l'Église face à des phénomènes surnaturels. Les critères qu'elle retient lors de ces examens sont de 3 ordres. Il y a un critère historique, donc l'événement lui-même, toutes les informations possibles et les témoignages. Le critère psychologique, la personnalité du voyant, son équilibre psychique et spirituel, et le contexte social et religieux aussi. Quand saint Vincent Ferrier supplie le Seigneur de sauver un ouvrier qui tombe d'un échafaudage et qu'il est retenu entre ciel et terre parce qu'il avait promis à son père abbé de ne plus demander de miracle, et qu'il part au couvent pour aller lui demander la permission de demander à Dieu de descendre l'ouvrier, pendant ce temps-là, vous avez des centaines de personnes qui se réunissent dans la rue en train de regarder l'ouvrier en l'air. Nous sommes dans les années 1400. Alors on va vous dire, oui, mais c'est ancien, c'est normal, c'est une légende, ça a été inventé. Eh bien non. Les critères théologiques, c'est l'examen des conditions dans lesquelles se produit l'apparition, son aspect physique, s'il y a lieu compte tenu du message, conformité à la foi et aux mœurs, et transparence, référence à Dieu, au Christ, à l'Évangile, au service de Dieu et des hommes. Les signes, comme les guérisons, les conversions et les miracles, sont également étudiés avec soin. Voilà ce que disait le pape Benoît XV dans les années 1740. Il faut savoir que l'approbation donnée par l'Église à une révélation privée n'est pas autre chose que la permission accordée, après un examen attentif, de faire connaître cette révélation. Pourquoi ? Pour l'instruction et le bien des fidèles. À de telles révélations, même approuvées par l'Église, écoutez bien, on ne doit pas et on ne peut pas accorder un discernement de foi, un assentiment, pardon, de foi. Ce n'est pas au même degré que le credo et l'évangile. Il faut seulement, selon les lois de la prudence, leur donner l'assentiment de la croyance humaine respectueuse, n'est-ce pas ? Pour autant que de telles révélations soient probables et croyables pour la piété. En conséquence, on peut ne pas accorder son assentiment à de telles révélations et même s'en détourner. Mais si l'Église s'est prononcée comme en disant que ce n'est pas dangereux pour la foi, alors, pourvu qu'on le fasse avec la modestie convenable, pour de bonnes raisons et sans intention de mépris. Au risque de vous choquer, vous pouvez ne pas croire que la Vierge Marie est apparue à Lourdes. Mais comme l'Église s'est prononcée, vous devez le garder pour vous, parce que ça blesserait la piété légitime que de dire ouvertement et publiquement « Marie n'est pas venue à Lourdes ». Mais, intérieurement, si vous devez adhérer au « Je crois en Dieu », vous n'êtes pas obligé de croire que la Vierge Marie est apparue à Lourdes. Alors, nous devons maintenant passer aux apparitions elles-mêmes. Les experts de la 42e semaine mariale à Saragosse en 1986 ont dénombré au moins 21 000 apparitions mariales depuis l'an 1000, d'après les historiens. Mais l'Église n'en a authentifié officiellement qu'une quinzaine de manière universelle, sur 21 000. Au cours de ce seul 20e siècle, il a été recensé près de 400 apparitions mariales, et 200 pour la seule période de 1944 à 1993. Pour 7 d'entre elles, l'évêque local a reconnu le caractère surnaturel des faits. Et d'autres ont été reconnus par le Saint-Siège lui-même. Ici, on vous fait remarquer qu'il y a eu 2 apparitions dans le monde chrétien orthodoxe qui ont été reconnues par les autorités hiérarchiques orthodoxes. Dans 17 cas, l'évêque, indépendamment d'un jugement concernant le caractère surnaturel des faits, a autorisé l'expression d'un culte sur les lieux de l'apparition. Enfin, 79 d'entre elles ont reçu un jugement négatif. Ainsi donc, nous allons maintenant voir apparition après apparition, en laissant quelques-unes, bien sûr. Au Concile Vatican II, en 1965, il avait été reconnu que la Bienheureuse Vierge est invoquée dans l'Église sous les titres d'avocate, d'auxiliatrice, secourable, médiatrice, tout cela cependant entendu de telle sorte que nulle dérogation, nulle addition n'en résulte quant à la dignité et à l'efficacité de l'unique médiateur entre Dieu et les hommes, le Christ. La Vierge Marie est servante de la rédemption. Elle coopère à la rédemption. Elle n'y ajoute pas dans son essence, mais dans l'aide, elle est présente. La reconnaissance de l'authenticité des apparitions mariales appartient en théorie au Saint-Siège. Dans la pratique, les papes ont laissé une large initiative aux évêques diocésains. C'est avec le cardinal Ottaviani et surtout le cardinal Ratzinger que le contrôle de Rome s'est précisé, explique le père René Laurentin, un grand spécialiste des apparitions mariales, qui rappelle qu'en 1987, le cardinal Ratzinger avait critiqué l'évêque vénézuélien de Los Teques pour avoir reconnu les apparitions de Bethania sans en référer à la Congrégation pour la doctrine de la foi, comme il en avait le droit, par délégation. Maintenant que je vous ai refroidi, je vais essayer de vous réchauffer. Voilà des apparitions reconnues par l'Église. Et qu'est-ce que veut nous dire la Vierge Marie ? La Vierge Marie nous demande de prier et de nous sanctifier et de faire pénitence. Ensuite, il y a aussi un autre message important de la Vierge Marie, c'est de nous avertir d'une punition et d'un châtiment si nous ne faisons pas pénitence. Alors, de nos jours, c'est mal perçu. On ne retient que l'appel à la prière et à la conversion, mais la querelle qu'il y a actuellement entre catholiques et entre chrétiens, c'est sur la peine, la punition, s'il n'y a pas conversion, s'il n'y a pas progrès dans le bien. Et en fait, si ce sujet des apparitions mariales apporte beaucoup de tensions parfois, c'est à cause des messages négatifs, au sens moderne du terme, des avertissements sévères qui peuvent venir d'une mère aussi pleine de bienveillance et de bonté qu'est la Vierge Marie. On ne voudrait pas atteindre à cette bienveillance. Et pourtant, c'est bien parce qu'elle nous aime et qu'elle est bonne et bienveillante que la Vierge Marie est parfois, a des paroles parfois sévères. Voilà toute la difficulté. Alors ici, nous avons des apparitions que je vais évoquer rapidement, car je vais m'attacher spécialement à ce qui est en gras et en italique, c'est-à-dire les paroles elles-mêmes de la Vierge Marie. Qu'est-ce qu'il se passe à Notre-Dame des Trois Épis à Orbais, près de Colmar en France, le 3 mai 1491 ? Il y avait un pauvre homme qui cherchait des herbes médicinales pour les vendre à des pharmaciens, à des apothicaires, qui était mort près d'un arbre, piqué par une vipère. Quelque temps plus tard, un forgeron d'Orbais, qui était un homme très pieux, voyant l'image qui avait été laissée sur le tronc de ce chêne, se recueille pour prier pour le repos de l'âme de ce pauvre homme qui était mort subitement à cause de cette piqûre. Et cette prière était d'une telle sincérité, une telle bonté, qu'il a reçu une visite de la Vierge. Alors, en voyant l'éclat du rayon lumineux qui vient à lui, il se met à genoux, il se prosterne et lui montre, et la Vierge Marie lui montre dans ses mains un petit glaçon et trois épis de blé. Voilà ce qu'elle dit. « Relève-toi, brave homme, dit la Vierge avec douceur et écoute. Vois ces épis. Ils sont le symbole de l'abondance des belles moissons qui viendront récompenser les êtres vertueux, généreux et apporter le bien-être et le bonheur dans les foyers des fidèles chrétiens. Bien. Quant à ce glaçon, il signifie que la grêle, la gelée, l'inondation, la famine et tout son cortège de désolation et de malheur viendront punir les mécréants dont la gravité des péchés a pu lasser la miséricorde divine. Va, bonhomme, descends dans les villages et annonce à tous les habitants le sens de ces prophéties. » On a le type même de la querelle contemporaine, à savoir, est-ce que la Vierge Marie est gentille ou trop sévère ? Eh bien ici, en 1491, la Vierge Marie donne un avertissement pour nous pousser à nous convertir. C'est exactement comme Fatima, mais c'est en 1491. Lui eut peur d'être ridicule et a mis au fin fond de sa mémoire cette apparition. Il va au marché au grain près de Colmar, je n'ose prononcer le nom de la ville, et quand il a rempli le sac de grain, il n'a pas pu le soulever. Et il devenait ridicule devant tout le monde, il avait un sac de grain, il était là à essayer de partir avec. Les gens se sont attroupés. Ils ont dit, mais comment ça se fait? Personne n'a pu soulever le sac de grain. Alors ils ont dit, ça devait être un sorcier qui a été piégé, qui est révélé par Dieu. Eh bien lui, en fait, a compris qu'il devait transmettre le message qu'il avait reçu. Et il a dit, j'ai vu la Vierge Marie, elle avait trois épis dans la main et un glaçon dans l'autre. La piété récompensée, le péché puni. Et voilà. Alors, Notre-Dame des Grâces, à Cotignac, dans le Var, en France, en 1519. Voilà qu'elle apparaît les 10 et 11 août 1519 à Jean de la Baume, au bûcheron. Il commence sa journée de travail en priant. Lorsqu'il se relève, qu'elle n'est pas sa surprise de voir dans les nuages la Vierge Marie tenant l'enfant Jésus dans ses bras, et à leur côté se tiennent l'archange Saint-Michel et Saint-Bernard de Clairvaux, s'il vous plaît. Le lendemain, même vision. « Je suis la Vierge Marie. Allez dire au clergé et au consul de Cotignac de me bâtir ici même une église sous le vocable de Notre-Dame de Grâce et qu'on y vienne en procession pour recevoir les dons que je veux y répandre. » Autre particularité des apparitions de la Vierge Marie, c'est de faire construire une église et de transformer ce lieu en un lieu de pèlerinage. Elle le demande explicitement. Après 20 ans de mariage, le roi Louis XIII et la reine Anne d'Autriche n'avaient toujours pas d'enfant. C'est alors que frère fiacre religieux Augustin a une vision de la Vierge Marie dans la nuit du 3 novembre 1637. Notre-Dame s'adresse à lui en ces termes. N'ayez pas peur, je suis la mère de Dieu et l'enfant que vous voyez est le dauphin que Dieu veut donner à la France. Pour marquer que je veux qu'on avertisse la reine de faire trois neuvaines en mon honneur, voilà la même image qui est à Notre-Dame de Grâce, en Provence, et la façon de l'Église, la forme de l'Église. Frère Fiacre s'exécute donc et fait ses neuvaines au nom de la reine, une à Notre-Dame de Grâce, la suivante à Notre-Dame de Paris et la dernière à Notre-Dame des Victoires. Et moins d'un an plus tard, le 5 septembre 1638, naît Louis XIV, Dieudonné. Et le 21 février 1660, Louis XIV lui-même, accompagné de sa mère, viendra à Cotignac pour rendre grâce de sa naissance. Eh bien, quelque temps plus tard, le 7 juin 1660, Gaspard Ricard, un jeune berger, qui est en train de mourir de soif sur le mont Bessillon, atteint de, comment dire, d'une insolation, c'est alors que Saint Joseph apparaît et lui dit « Je suis Joseph, soulève ce rocher et tu boiras. » Gaspard obéit et une source qui coule encore aujourd'hui se met à jaillir. Voyez-vous, tout cela, c'est l'histoire de France et c'est l'histoire de la bénédiction de l'Église. Notre-Dame de Guadeloupe, le 12 décembre 1531, est une date importante pour les Aztèques. La survie de l'univers, selon leurs croyances, nécessite des sacrifices humains. Eh bien, l'apparition de la Vierge Marie désigne le Christ. Elle est enceinte et porte une petite croix. Et elle réoriente vers le Christ l'intuition aztèque d'un sacrifice rédempteur. Elle apparaît à Guadalupe, à Mexico, le 9 décembre 1531, un Indien de 57 ans, Saint Juan Diego. Son manteau traditionnel, une tilma, reçoit l'image de sa vision, ici dans cette église, vous avez Notre-Dame de Guadeloupe au baptistère. Et c'est l'image, c'est une photographie du pagne de San Juan Diego qui a 500 ans environ, 470 ans. Il est en fibre végétale, donc il aurait dû se détruire depuis bien longtemps. Et la peinture qui est sur ce pagne est surnaturelle. On n'a jamais su quels en étaient les pigments. Notre-Dame du Laos, 1676-1718. Je vais plus vite. Je suis Dame Marie, la mère de mon très cher fils. Allez au Laos, vous y trouverez une chapelle d'où s'exhaleront de bonnes odeurs et là très souvent vous me parlerez. En effet, ces apparitions vont durer 54 ans pour la petite Benoît Rancurel jusqu'en 1718. J'ai demandé ce lieu à mon fils pour la conversion des pécheurs et il me l'a accordé. Je passe pour arriver à travers les siècles à Notre-Dame de la Médaille Miraculeuse. Je l'ai mis en italique parce que il y a une messe, mais il n'y a pas une reconnaissance canonique de l'apparition de la Vierge Marie rue du Bac. Elle est indirecte. Venez au pied de cet autel. Là, les grâces seront répandues sur toutes les personnes qui les demanderont avec confiance et ferveur. Le 27 novembre 1830, à l'occasion de la description de la médaille que la Vierge demande, Catherine voit s'ouvrir en demi-cercle cette invocation en lettres d'or « Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. » Alors, une voix se fait entendre « Faites frapper une médaille sur ce modèle, les personnes qui la porteront avec confiance recevront de grandes grâces. » Il y a une reconnaissance du caractère de la bénédiction même de cette médaille par l'archevêque de Paris. On passe à nouveau à Rome, en Italie, en 1842. Alphonse Ratisbonne est un homme juif, riche, athée et railleur des pratiques catholiques. En 1842, en voyage touristique à Rome, il se rend avec un ami dans la basilique Saint-André delle Frate. Il avait accepté par pure courtoisie de porter la médaille miraculeuse de 1830. Entré dans l'église Saint-André, dans une lumière éblouissante, au-dessus de l'autel, la Vierge Marie lui apparut dans la même attitude que sur la médaille. Elle m'a fait signe de la main de m'agenouiller. Une force irrésistible m'a poussé vers elle. La Vierge a semblé me dire « C'est bien ». Elle ne m'a pas parlé, mais j'ai tout compris. Il s'est converti et il est devenu prêtre. À la Salette, je suis obligé de vous lire toute une partie du message. Nous sommes le 19 septembre 1846 et Mélanie Calva et Maximin Giraud montent à l'alpage de la Salette. La Vierge Marie est là et elle leur dit « Avancez, n'ayez pas peur ». Elle porte sur ses épaules une lourde chaîne et à côté des roses. Elle verse des larmes silencieuses. À nouveau, encouragement à la conversion et avertissement d'une punition si on ne se convertit pas. « Si mon peuple ne veut pas se soumettre, je suis forcé de laisser aller le bras de mon fils. Il est si fort et si pesant que je ne puis le maintenir depuis le temps que je souffre pour vous autres. Si je veux que mon fils ne vous abandonne pas, je suis chargé de le prier sans cesse. Pour vous autres, vous n'en faites pas cas. Vous aurez beau prier, beau faire, jamais vous ne pourrez récompenser la peine que j'ai prise pour vous autres. Je vous ai donné 6 jours pour travailler, je me suis réservé le 7e et on ne veut pas l'accorder. C'est ça qui appesantit tant le bras de mon fils. Je passe maintenant à Lourdes, le 11 février 1858. Pénitence, 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 priez Dieu pour les pécheurs, allez baiser la terre en pénitence pour les pécheurs. Le 2 mars 1858, allez dire aux prêtres qu'on vienne ici en procession et qu'on y bâtisse une chapelle. Je passe à Pontmain, 1871. Un message apparaît autour de la Vierge Marie. Mais priez, mes enfants. Dieu vous exaucera en peu de temps. Mon fils se laisse toucher. Ici, voyez-vous, avec Pontmain et la Salette, nous voyons une prière exaucée et une menace. Tout est mélangé pour nous faire garder l'espérance. Appel voisin, reconnu tardivement en 1983. Vous devez contempler mon cœur pour voir combien il est plein de l'amour que je voudrais répandre sur vous. Mon amour voudrait remplir vos cœurs d'amour afin que vous aimiez Dieu. Vous devez revenir vers le Seigneur. Il vous aime de tout l'amour de son cœur et attend impatiemment que les âmes reviennent vers lui. Priez, priez, priez et offrez votre souffrance. Même la plus petite peine est précieuse pour le ciel. Si vous la supportez avec amour, si vous la lui offrez en disant « Jésus, tout par amour pour toi ». Je vais à Fatima. À Fatima, en printemps 1916, l'ange de la paix, l'ange du Portugal, apprend aux enfants à faire pénitence. N'ayez pas peur, je suis l'ange de la paix, priez avec moi. Et il leur apprend cette prière. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Je demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'espèrent pas, qui ne vous aiment pas. Après avoir répété 3 fois cette prière, il leur dit, priez ainsi. Les cœurs de Jésus et de Marie sont attentifs aux voix de vos supplications. Toujours la même chose. Et là apparaît de plus en plus fort la capacité que nous avons de coopérer à la rédemption et de réparer. Et c'est le charisme particulier de Fatima. Mais déjà, le Christ, à Paray-les-Moniales, avait demandé qu'on répare les offenses contre son sacré cœur. Mais ici, je parle particulièrement de la Vierge Marie. La seconde apparition a dû avoir lieu au cœur de l'été. Voilà l'ange. Que faites-vous? Priez, priez beaucoup. Les 13 saints cœurs de Jésus et de Marie ont sur vous des desseins de miséricorde. Offrez constamment au Très-Haut des prières et des sacrifices. Lucie demande, et comment devons-nous sacrifier? De tout ce que vous pourrez, offrez un sacrifice en acte de réparation pour les péchés pour lesquels il est offensé et de supplication pour la conversion des pécheurs. Attirez ainsi la paix sur votre patrie. Je suis son ange gardien, l'ange du Portugal. Surtout, acceptez et supportez avec soumission les souffrances que Dieu vous enverra. Voilà la difficulté. Le dolorisme christique et de la passion appliquée aux fidèles. Est-ce que nous l'acceptons? Voilà la prière de l'ange. Très sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, je vous adore profondément et je vous offre les très précieux corps, sang, âme et divinité de Jésus-Christ, présents dans les tabernacles du monde, en réparation des outrages, sacrilèges, et indifférence, auquel dont il est lui-même offensé, et par les mérites infinis de son très saint cœur et du cœur immaculé de Marie, je vous demande la conversion des pauvres pécheurs.